Pour savoir tout, tout sur le sport, voici Olivier Beauregard.
Et on le joint tout de suite au bout du fil, Olivier Beauregard, bonjour.
Salut Sébastien.
Et là, on commence en parlant hockey tout d'abord et de cette date limite des transactions dans la LNH, c'est lundi ça.
Oui, absolument, ça arrive ce lundi, lundi la semaine prochaine, le 12 avril. Et ce qui est intéressant dans cette date limite des transactions-là, dans la saison écourtée qu'on la connaît, c'est que les besoins des équipes vont être accomplis, évidemment, mais tout l'aspect COVID rentre en jeu de cette date limite des transactions-là, parce que il y a des équipes qui sont plus réticentes à faire des transactions entre les différentes divisions, c'est-à-dire, mettons, la division Nord au Canada et la division Atlantique, si on veut, parce que quand tu regardes ça, tu te dis, OK, il faut compter la quarantaine derrière tout ça. Le joueur qui va être échangé doit subir une quarantaine. Et ça dure quelques jours. Combien de matchs pendant cette période-là, disons, le joueur sera tenu à l'écart? Tu sais, ça compte tout, ça penche tout dans la balance. Et pourtant, on sait qu'il y a des équipes, surtout dans l'Association canadienne présentement, là, qui vont avoir besoin de renforts pour les séries. Je regardais justement, si on commence par le Canadien de Montréal, je regardais un peu leurs besoins. Bon, évidemment, Brendan Gallagher blessé pour... la fin de la saison, moi, on devrait le revoir pour les séries éliminatoires. On parle de 6 semaines dans son cas. Écoute, évidemment, c'est une bougie d'allumage. Pour ceux qui ont regardé le match contre les Leafs de Toronto hier, il y a peut-être justement cette petite énergie-là là, qui manquait à l'équipe pour aller chercher la victoire, finalement. C'est pas dramatique, là. Le Canadien s'est incliné 3-2 et avait pas Brendan Gallagher. Je veux dire, on n'a pas été déclassé dans ce match-là. Par contre, à long terme, est-ce que ça pourrait être envisageable pour Marc Bergevin d'aller peut-être pallier, aller chercher un joueur qui pourrait venir aider le Canadien en espérant que le Canadien soit en mesure de ne pas payer trop cher? Parce qu'évidemment, on est allé chercher Eric Staal. La masse salariale est pas mal élevée là, du côté du Canadien de Montréal présentement. Et on se demande c'est quoi les options à Marc Bergevin. Et là, je vais partir un débat, puis je te dis, Sébastien, là, les auditeurs qui nous écoutent présentement, il y en a qui vont être d'accord avec moi, il y en a qui seront pas d'accord du tout. Moi, là, ce que je suis en train de me demander présentement, c'est si Marc Bergevin devrait pas tenter de marchandiser Jonathan Drouin d'ici à lundi. Et je m'explique. Jonathan Drouin, là, oui, c'est 21 points en 36 matchs. Oui, c'est un joueur talentueux. Il n'y a pas personne qui va dire le contraire. Par contre, Jonathan Drouin, dans le moule actuel du Canadien de Montréal, ne performe pas comme il devrait performer. C'est un gars qui joue sur l'avantage numérique, le premier avantage numérique de l'équipe. C'est un gars qui passe plusieurs minutes sur la glace, joue avec Nick Suzuki et Josh Anderson. Et pourtant, on a l'impression que Drouin, présentement, sous-performe. Puis je dis présentement, mais tu sais, si on est honnête, là, ça fait quelques temps, là, même depuis presque son arrivée à Montréal, que des attentes sont élevées à son endroit. Avec raison, là, je veux dire, c'est un joueur qu'on a donné un gros contrat pour pouvoir le garder à Montréal sur une période de 6 ans. Et on est en train de se demander, est-ce que Jonathan Drouin peut faire sa place à Montréal? Écoute, je réfléchissais à ça, puis je me disais, premièrement, c'est 5,5 millions sur la masse salariale du Canadien par année. Jonathan Drouin, on l'a vu hier, c'est difficile pour lui. L'aspect jeu défensif, l'aspect repli défensif. Je sais qu'il y en a qui disaient, hey, depuis que c'est Dominique Ducharme, on le sent qu'il y a un regain dans le jeu de Jonathan. Mais oui, mais ça a duré 3 matchs, là. Tu sais, je veux dire, tu veux finir la saison, tu veux avoir une place en séries éliminatoires. Tu t'attends à ce que Jonathan Drouin prenne justement le lead, remplace un peu ce que Brendan Gallagher amenait. C'est pas ça qui se passe présentement. Alors, ma réflexion derrière ça, c'est, on va-tu tenir le même discours encore 1 an, 2 ans pour finalement dire, finalement, Jonathan Drouin, quand il y avait une certaine valeur, on aurait dû l'échanger. Moi, c'est ça ma réflexion. Parce que là, je me dis, le Canadien est en bonne position de faire les séries, là, à moins d'une catastrophe, ils ne seront pas des séries éliminatoires. Mais est-ce que on veut un passage juste éphémère en série ou on veut un passage marqué puis avoir la chance de se rendre le plus loin possible? Ben moi, là, si j'étais dans les souliers de Marc Bergevin, c'est un peu ça ma réflexion derrière ça. Puis je suis convaincu que lui, de son côté, il doit penser à toutes les options possibles. Parce que si tu veux pouvoir connaître du succès, puis il y a certains noms là, qui sont alléchants sur la liste des joueurs qui sont échangés. Est-ce que Marc Bergevin pourrait tenter un coup et échanger Jonathan Drouin? Je sais que ça fera pas l'unanimité. Là. J'en entends dire, hey, des Québécois à Montréal, on en a pas assez.
Ça revient toujours. Là, oui, on dirait qu'on oublie l'aspect du jeu souvent, puis on ramène souvent l'aspect de l'origine du joueur. Là.
Ben absolument, parce que j'ai rien contre avoir des Québécois, au contraire, à Montréal. Sauf qu'éventuellement, si les Québécois fournissent pas et t'amènent pas une 25e Coupe Stanley, ça sert à quoi de signer tous les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec? Tu comprends ce que je veux dire? Là, tu sais, à un moment donné, tu veux avoir la meilleure équipe possible. Si Jonathan Drouin, en ce moment, ne fait pas partie de la solution pour le Canadien en vue d'une conquête de la Coupe, qu'est-ce que ça te donne de le garder dans l'alignement? Moi, c'est ça un peu ma question. Puis, je suis pas en train de dire que Jonathan Drouin n'aura jamais de réveil. Je sais pas ce que je dis. C'est juste que quand je regarde les discussions que les gens tiennent, les discussions que les analystes tiennent depuis l'arrivée de Jonathan Drouin à Montréal, à chaque année, Sébastien, ça revient. Ah! Jonathan Drouin a sous-performé cette saison à Montréal. Jonathan Drouin n'a pas rempli son mandat, son rôle. Il est supposé être beaucoup mieux que ça. Écoute, deux buts depuis le début de la saison, là, c'est pas suffisant selon moi. Moi, je m'attends à beaucoup plus de lui. J'imagine qu'il y a plusieurs partisans qui s'attendent à beaucoup plus. Puis je peux vous garantir que la direction du Canadien de Montréal s'attend à beaucoup plus de lui. Alors, selon moi, ce serait, disons, un choix logique ou au moins une option à envisager du côté du Canadien de Montréal. Après, si on reste du côté du Canadien, écoute, la blessure à Ben Chiarot fait en sorte que, ben, du côté de la défensive, on le voit, là, c'est un peu plus difficile. J'enlève rien à Victor Mété, mais tu sais, tu peux pas lui donner le même nombre de minutes qu'on donnait à Ben Chiarot. Kulak, même chose. Il joue un bon hockey dans sa chaise respective, c'est-à-dire cinquième, sixième défenseur. Mais moi, selon moi, faut que tu essaies de solidifier ta défensive. Romanov joue du bon hockey, mais il est encore jeune, il a des croûtes à manger. Est-ce qu'un David Savard, justement, avec les Blue Jackets de Columbus, qui lui, d'ailleurs, ne sera pas en uniforme ce soir parce qu'on dit qu'on veut le protéger en vue de la période des transactions, est-ce que David Savard serait alléchant pour le Canadien? Tu sais, ce sont des options comme ça que j'imagine que Marc Bergevin va regarder et solidifier sa défensive. Parce que, écoute, on est à une blessure en défensive, Sébastien, de ne plus avoir de profondeur. Et à partir du moment où tu n'as plus de profondeur en défensive, avant les séries éliminatoires, et là, ça devient difficile. Puis, tu sais, Carey Price blessé un peu plus tôt cette semaine. On ne sait pas exactement la nature de la blessure. On ne sait pas combien de temps qu'il est à l'écart. Jake Allen pourrait jouer ce soir contre les Jets de Winnipeg. Là, c'est pas encore confirmé, mais si c'est le cas, écoute, c'est un 2-2. Jake Allen, c'est un mois d'avril terrible pour le Canadien, là, avec justement la période de pause en raison des cas de COVID. Ça va être un mois surchargé pour le Canadien. Est-ce que Jake Allen est capable de prendre cette charge-là? Et est-ce qu'on peut donner quelques matchs à un gars comme Kaden Primeau, peut-être? Ou un autre gardien substitut, tu sais, je ne sais pas, mais ça, c'est d'autres choses qu'il faut réfléchir du côté du Canadien, parce que Charlie Lindgren, selon moi, n'a pas l'aspect, disons, d'un gardien étoile dans la Ligue nationale pour venir prendre la charge de travail d'un gardien numéro 2 à temps plein. Et du côté de Jake Allen, ben imagine s'il y a une blessure, Sébastien, tu te retrouves avec Charlie Lindgren et Kaden Primeau. Je sais que les gens aiment Kaden Primeau, mais on ne l'a pas vu encore performer comme il devrait performer dans la Ligue nationale. Il est encore tout jeune, c'est normal. Alors, il y a beaucoup de points d'interrogation. Moi, je m'attends à ce que Marc Bergevin fasse peut-être une transaction. Là,
ben, c'est ça, parce que là, tu t'offres plein d'options, mais tu t'attends à quoi comme journée lundi, par exemple?
Ben, écoute, c'est parce qu'à chaque fois que je lève les attentes, Sébastien, pardon. Je veux dire, là, je veux pas vous promettre qu'il va avoir une journée mouvementée dans l'entreprise canadienne de Montréal. Quand tu regardes l'aspect de la masse salariale, tu te dis que c'est pratiquement impossible de bouger. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais que Jonathan Drouin devient une monnaie d'échange intéressante, qui libère de l'argent également sur la masse. Mais je sais pas, je m'attends à ce que Marc Bergevin regarde les options, parce que là, la liste des blessés, disons, s'agrandit du côté du Canadien. Tu veux justement pas manquer d'armes en vue des séries éliminatoires. Alors, tant qu'à moi, tu dois bouger. Et j'ai l'impression que Marc Bergevin, lui, là, il dormira pas de la fin de semaine. Puis lundi, peut-être qu'il va être encore une fois en mesure de sortir un lapin de son chapeau. Mais écoute, déjà l'embauche d'Éric Staal, on le voit, c'est une différence importante. Éric Staal, au centre, prend des mises en jeu importantes. On le voit également, c'est un joueur tellement intelligent, tellement brillant. Moi, je pense que c'est un bon coup de Marc Bergevin, mais je pense pas que ça va être suffisant pour une équipe qui veut gagner la Coupe Stanley. Rapidement, un mot sur les Sénateurs d'Ottawa. Écoute, ça serait surprenant de les voir en série. Je m'attends pas à ce que Pierre Dorion bouge chez les Sénateurs. Là. Je m'attends vraiment pas à ce qu'il hypothèque un jeune joueur ou même un choix de repêchage pour améliorer son équipe. Ça sert à rien. Écoute, bravo aux Sénateurs pour ce qu'ils nous donnent cette saison. On s'attendait même pas à les voir aussi acharnés dans leur travail pendant des matchs. Ils vont être intéressants dans 2-3 ans, là. Mais présentement, je pense que si j'étais Pierre Dorion, je me dirais, je suis satisfait de ce que j'ai eu comme saison. Maintenant, Pensons à la saison prochaine, pensons au repêchage et faisons attention de pas nécessairement être trop emballé par une bonne performance, disons ça comme ça. Alors, du côté d'Ottawa, je m'attends pas nécessairement de mouvement. Et pour ce qui est du reste de la section canadienne, évidemment, je pense que tout le monde va écouter énormément, là, c'est pas compliqué. Il y a peut-être juste les Flames de Calgary, je m'attends pas nécessairement à ce que cette équipe-là bouge, mais ça, c'est personnel. Et dans les autres équipes, ben là, je vous épargne mais toutes les autres équipes de la Ligue nationale, parce qu'il va y avoir du mouvement, ça, c'est sûr et certain. Mais ça va être intéressant de suivre ça dans une période de pandémie, dans une période où, comme je le disais d'entrée de jeu, là, ça va être différent, là, parce que...
Ça change la donne, c'est ça.
Exact. Doit prendre en considération la période de quarantaine. Alors, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler, puis on aura l'occasion de se parler de ça jeudi prochain, après justement cette période de transaction.
Sinon, ben rapidement, aujourd'hui commençait ce Masters. On parle de golf, là. On revient à une période habituelle. Là. C'est à ce temps-ci de l'année, habituellement, que ça se tient. Là.
Ouais, exact. Ça fait différent parce qu'on l'a eu au mois de novembre, il n'y a pas si longtemps. Là. Mais non, c'est le fun. C'est le plus beau tournoi de golf, selon moi, là, à mon humble avis. Là. C'est synonyme de printemps, le Masters. C'est synonyme de la saison de golf qui commence également. Évidemment, quand tu regardes les nouvelles au Québec, c'est pas très réjouissant là, quand tu veux pratiquer du sport de golf cet été. Là, quand tu regardes tout ce qui va rentrer en vigueur au niveau des mesures sanitaires, mais ça, c'est un autre sujet complètement. Pour ce qui est du Master, écoutez, Dustin Johnson, qui a gagné le Master au mois de novembre, disait « Moi, je vise un deuxième titre consécutif. »
Écoutez, ils sont pas beaucoup à avoir réussi à faire ça. Là. Ils sont 3, 4, 3?
Ouais, exactement. Je pense que c'est 3. Tu as tout à fait raison. Et tu dis ça, Sébastien, et c'est drôle. Dustin Johnson était en train de reprendre ses aises tranquillement. Là. Il y en a même qui disait qu'il était revenu à jouer son meilleur golf depuis longtemps, tout récemment. Et pourtant, il a commencé la journée de façon terrible. Je pense qu'il était plus 3 là, à un certain moment. Et juste pour faire un comparatif avec la première journée, la première ronde du Masters au mois de novembre de Dustin Johnson, il était à -7. Et là, il est à +3. Hey. Je veux pas rien lui enlever, là, mais ça va être difficile pour Dustin Johnson. Il est mieux de justement là, user un peu de magie parce que ça pas certain que c'est le favori. Là. Il y a plein de gens que je vois qui se sont emballés hier avant le début du Masters en disant Dustin Johnson risque fort probablement d'enfiler le veston vert encore. Pas certain, moi, parce que ça a été un départ très difficile aujourd'hui. Et il n'y a rien qui est écrit dans le ciel, là, en tout cas dans son cas. Et Sébastien, je m'en voudrais de pas juste dire que c'est difficile de voir un Masters sans la participation de Tiger Woods.
C'est sûr que c'est. On n'a pas le choix d'avoir une pensée.
Ah, absolument. Écoute, on a l'impression que son aura là est, si tu veux, là, dans les nuages en haut, justement, du tournoi des maîtres, parce que. C'est terrible comme accident. Évidemment, Tiger Woods, sa carrière est probablement compromise. Là, je veux pas partir en peur avec ça, mais je regardais justement les dernières informations hier à ce sujet-là. Écoute, on parle d'une vitesse excessive. On sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, mais écoute, il y a eu des opérations aux jambes. On savait qu'il avait déjà eu des problèmes de dos. Il avait été opéré au dos également. On ne sait pas ce que ça va donner Tiger Woods dans un an, mais j'ai, en tout cas. À mon humble avis, là, moi, j'ai l'impression qu'il ne redeviendra jamais joueur de golf qu'il a été, malheureusement, après un accident comme ça. Alors, on dirait que le Masters, sans lui, c'est significatif cette année. Et j'espère qu'on va avoir le droit à autant de magie qu'on a eu le droit de Tiger Woods, là, à une certaine époque, là, quand il était flinguant, même tout récemment, là, lorsqu'il est retourné au Masters.
Ben oui.
C'est que, il a performé comme ça n'avait pas de bon sens. J'espère qu'on aura des performances comme ça. Parce que c'est ça le Master, c'est la magie, c'est ce que Tiger Woods et c'est ce que plusieurs autres ont légué là au courant des dernières années. Alors, j'ai vraiment hâte de voir qui va sortir vainqueur dimanche. Mais présentement, juste pour vous dire, Matuidi est toujours en tête. Hardman également. Ils sont à -3 là cette première journée. Alors, c'est un bon départ pour eux et on espère avoir une belle histoire qui va s'écrire d'ici dimanche.
On s'en reparlera, Olivier Beauregard. Merci beaucoup et bonne fin de journée.
Bye-bye.